Je voudrais ce matin partager deux pensées avec vous. Les enfants viennent de chanter un cantique qui exprime la confiance que nous devons avoir en Dieu. Avons-nous vraiment confiance en Dieu? Dans l'évangile de Luc, quelqu'un va s'adresser à une femme, à une jeune fille, pour dire une des vérités les plus extraordinaires de la Bible. Dans Luc, au chapitre 1er, cette personne, c'est un ange. C'est un ange, il s'appelle Gabriel. Un ange que l'on voit plusieurs fois dans la Bible, du temps de Daniel, du temps de la Nativité. Dans Luc, au chapitre 1er, il y a un verset 37, quelques mots extraordinaires. Que faites-vous de ces mots-là? Que représentent-ils pour vous? Où en êtes-vous avec cette parole de Dieu prononcée par l'ange Gabriel? Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je voudrais lire un verset, gardez la page, même si ce verset, vous n'avez pas besoin de beaucoup de réflexion pour le garder. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, ça concerne la deuxième partie de mon message. Apocalypse 3, verset 10. D'un côté, nous voyons que Dieu est tout-puissant, et de l'autre, nous voyons ce que le Seigneur nous demande. Apocalypse 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Au chapitre 14, après toute une série de paroles très difficiles, si vous lisez le chapitre 13, le chapitre 14, vous avez de quoi vous poser des questions, croyez-moi. Et au verset 12 de ce chapitre 14, il y a ce verset, le verset 12, donc Apocalypse 14, 12, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. » Commençons par la première pensée, « Rien n'est impossible à Dieu. » Est-ce que, franchement, vous êtes convaincu de cette parole? Est-ce que vraiment vous le croyez? Parce qu'on peut croire les choses avec la tête. C'est facile de croire les choses avec la tête. On peut tous, ce soir, dire, tiens, ah, c'était quoi le verset? Ah, c'était facile. Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. Tout le monde peut apprendre ce verset par cœur. Vous pouvez même, vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez le répéter ce soir chez vous, oui ou non? Quelqu'un qui vient pour la première fois, qui ne croit pas en Dieu, tiens, c'était quoi le message du pasteur ce matin? Ah, c'est un verset de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, rien n'est impossible à Dieu. On le sait avec la tête, on le répète avec l'intelligence, mais cette vérité, la question qu'il faut vraiment poser, celle-ci, est-elle dans votre tête ou est-elle dans votre cœur? C'est ça le problème. Parce que dans la tête, ça ne produira rien du tout. Les païens, je le répète, peuvent la prononcer, peuvent même la croire. Est-ce qu'il y a des païens qui peuvent croire que rien n'est impossible à Dieu? Ben oui, moi je pense. Qu'il y a des païens qui vont dire, oui, Dieu doit être tout-puissant. C'est une affaire qui peut se comprendre. Mais nous devons le comprendre avec notre cœur. Parce que si cette parole, elle est dans votre cœur, elle provoquera vraiment de la confiance. Les chrétiens, ils n'ont pas confiance à Dieu. Ils ont beau dire, oui, j'ai confiance. Si on cite un verset, faites-vous confiance à Dieu. Oui, oui, amen, amen. Mais ce n'est pas vrai. Leur attitude, leur crainte, leur apeurement, etc., prouvent que ce n'est pas vrai. Ils le croient. Avec leur tête, je vous dis, ils peuvent le réciter, ils peuvent l'écrire, ils peuvent, je vous dis, n'importe qui peut dire, tiens, Luc 1, 37, ça va faire partie de ces versets que j'ai appris par cœur, rien n'est impossible à Dieu, voilà. Mais quand quelqu'un ne l'a que dans la tête, ça ne produit pas le résultat que Dieu attend. On ne peut pas chanter, j'ai l'assurance de mon salut, avec ferveur, avec autorité, si on ne croit pas que tout est possible au Seigneur. Que ce soit dit dans un sens ou dans l'autre, rien n'est impossible à Dieu, ou que tout est possible à Dieu, c'est une façon de le conjuguer. Ça ne change rien. Alors, est-ce que c'est dans votre cœur? Est-ce que vraiment vous croyez que tout est possible à Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que n'importe quel problème, N'importe quelle situation, Dieu peut la changer. C'est ça que ça veut dire. Rien n'est impossible à Dieu. Et si vous avez pris le temps de lire la parole de Dieu, vous avez observé que de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous prouve que rien ne lui est impossible. Tout ce que Dieu a fait, vous avez lu la Bible, tout ce que Dieu a fait pour nous montrer, pour nous enseigner, pour nous prouver sa toute puissance. Et cette parole fera de nous de véritables adorateurs. Mes frères et sœurs, on a chanté de beaux cantiques. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Je t'adore, on l'a chanté. Vous l'avez chanté, oui. Mais moi, je vais vous dire, quelqu'un qui ne croit pas avec son cœur cette parole, à savoir que rien n'est impossible à Dieu, il adorera, il conjuguera le verbe adorer à la première personne du singulier. Je t'adore. Voyez, on peut conjuguer le verbe ensemble. Nous t'adorons, ô Père. Deuxième personne du pluriel, on conjugue un verbe, mais ça peut être dans la tête. Mais je vous dis que si quelqu'un croit que rien n'est impossible à Dieu, il ne pourra pas faire autrement que d'être un adorateur, parce qu'il aura l'assurance que Dieu peut tout. Et c'est ça que Dieu recherche, parce que on a eu des livres, vous savez, sur ce fameux verset de Jean chapitre 4, ce que Dieu recherche, c'est des adorateurs, comme si Dieu, excusez-moi l'expression, était en manque. Vous voyez ce que je veux dire? Je le dis de cette façon parce qu'elle se comprend très bien. Dieu n'est en manque de rien. Quand Dieu dit que Dieu recherche des adorateurs, il exprime la sorte de chrétien qu'il veut avoir, le caractère de chrétien qu'il veut avoir. Les chrétiens que Dieu veut, ce sont des chrétiens qui expriment sa totale confiance à Dieu. Un chrétien, c'est un adorateur. Oui, je fais confiance à Dieu. Je l'ai décidé, avec ma tête bien sûr, mais je l'ai décidé surtout avec mon cœur. Et quand quelqu'un se lève le matin avec cette assurance dans son cœur que rien n'est impossible à Dieu, il ne se lève pas en pleurant, en s'apitoyant, en râlant, en rouspétant contre tout le monde, il se lève avec un cœur rempli d'adoration. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous l'avez déjà vécu, oui ou non? Quand on est pétri dans son cœur par une promesse de l'Écriture, on est bouleversé. Jésus qui enseigne la prière, le fameux Notre Père, nous demande de terminer la prière avec cette pensée, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, l'honneur et la gloire. Voilà comment le Seigneur Jésus nous demande de terminer notre communion avec lui lorsque nous prions, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance. C'est la vérité de toute façon. Dieu règne au siècle des siècles. Son règne domine sur tout. Vous pouvez dire non, ce n'est pas vrai, si Dieu régnait. Alors que les pécheurs le disent, c'est de bonne guerre. Mais quand on voit les chrétiens qui parlent de cette manière, c'est la preuve qu'ils ne sont pas du tout convaincus par la vérité. De toute façon, que Dieu règne au siècle des siècles, c'est la vérité. Vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas, vous la discutez, vous la contrecarrez, vous pouvez faire ce que vous voulez, Dieu règne au siècle des siècles. Alléluia. Et c'est de cette façon que nous réjouissons le Saint-Esprit dans notre cœur, parce que lorsqu'on commence à râler, à se plaindre, à gémir, vous croyez bien qu'on attriste le Saint-Esprit à nous. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on peut attrister le Saint-Esprit? Mais c'est écrit. Que toutes ces choses disparaissent d'humiliez-vous. N'attristez pas le Saint-Esprit. Dieu règne. Il est le maître de tout. Il est le maître de l'histoire. Vous le croyez que Dieu règne sur l'histoire? Vous croyez que Dieu il est affolé quand il voit ce qui se passe en Syrie? Est-ce que Dieu est affolé? Est-ce que vous croyez que Dieu se gratte la tête en disant « Mais comment je vais faire ?» Il y a des gens qui s'imaginent que Dieu passe son temps à essayer de réparer les choses que les hommes sont en train de provoquer. Il est le Dieu qui règne au siècle des siècles. Il règne éternellement. Il fait les choses comme il veut. Et il sait ce qu'il doit faire et quand il doit les faire. Car si les églises... Ça, c'est le deuxième point, j'anticipe juste un petit peu. Si les églises sont dans la tiédeur, si les églises ne combattent pas le bon combat de la foi, c'est qu'elles ne croient plus qu'à Dieu, tout est possible. Dieu peut tout. Quel est le premier miracle que Jésus a fait? Combien de temps il faut pour faire un bon vin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime le bon vin? Le très bon vin, je parle. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le bon vin? Allez, ne faites pas, les hommes, ne me faites pas du cinéma. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà. Si vous discutez avec un œnologue, il vous dira combien d'années il faut pour faire un bon vin. Combien d'années il faut d'après vous? Allez, combien? Il faut beaucoup de temps. Combien? 5 ans, 10 ans? Certains vous diront que pour avoir un très bon vin, il faut 20 ans à 25 ans. Vous entendez? Ah oui, un très bon vin, je parle. Et c'est vrai. Ne donnez pas de marque, Madame Baladin. Mais franchement, c'est vrai. Pour faire un bon vin, il faut 5, 10, 15, 20 ans. Tous les œnologues vous le diront. Mais est-ce que Dieu peut faire du bon vin en un instant? Est-ce que Dieu l'a fait? C'est le premier miracle qu'il a fait. Ce que l'homme, ce que la nature va faire en 20 ans, en 30 ans, Dieu peut le faire en un instant. Le temps peut vous guérir du deuil. C'est la seule chose que le temps peut guérir. Les gens dans le monde peuvent être guéris du deuil en 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il faut du temps pour guérir le deuil. Est-ce que Dieu peut changer le deuil en allégresse par sa puissance? Dieu, lorsqu'il a choisi de faire ce premier miracle à Cana, c'était intelligent, c'était pour nous montrer que lui, il peut faire les choses comme il veut, quand il veut, et qu'il aurait pu faire un vin, un petit vin. Et il a fait du très bon vin. Donc, quand Dieu fait quelque chose, en principe, c'est toujours bien. Est-ce que Dieu a fait de bonnes choses dans votre vie? Est-ce que vous croyez qu'à Dieu, tout est possible? Mes frères et sœurs, l'Église ne pourra être que la véritable Église si elle est pétrie de cela. Que son cœur est vraiment convaincu de cela. Qu'à Dieu, rien n'est impossible. Il faut le comprendre. Je pensais ce matin quand la naissance de Jésus. Jésus, ses parents, ils habitaient où? Ils habitaient à Nazareth. Bon. Et quand Marie devait accoucher, il fallait qu'il naisse où Jésus? Il fallait qu'il naisse à Bethléem. Bon. C'était un problème, oui ou non? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a inspiré César Auguste, qui devait certainement être à Rome. Voilà. Peut-être que lui, il n'a même pas compris ce qu'il faisait. Il s'est réveillé un matin, il a dit, voilà, il faut que je fasse un recensement de toute la terre. C'est une bonne idée. Il l'a fait. Dieu a infléchi le cœur d'un empereur pour provoquer un recensement parce qu'il fallait que le Christ naisse à Bethléem. Et Dieu a provoqué ce recensement et tout le monde allait se faire inscrire dans la ville de sa naissance. Et voilà comment Dieu a incliné le cœur pour que nous comprenions bien qu'à Dieu, tout est possible. Dieu peut-il incliner le cœur d'un dirigeant? Le voyez-vous dans la parole de Dieu? Vous avez vu le nombre de dirigeants qui ont été infléchis par Dieu pour que sa volonté se fasse? À Dieu, tout est possible. Mes frères et sœurs, l'Église ne sera jamais la véritable Église du Seigneur, pleine de confiance, pleine d'assurance, et tous ces bambins qui étaient là, qui chantaient, et il faut qu'ils vous voient le cœur rempli d'assurance. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Un chrétien, il doit être rempli d'assurance. Oui, il a changé loi 20, il a incliné le cœur de César Auguste, on pourrait prendre de la Genèse à l'Apocalypse, et on ne verra que ça, qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mes frères et sœurs, il faut que vous le compreniez. Dans Lamentation de Jérémie, lisez-le avec moi. Ça faisait partie de ma lecture ce matin, de ma lecture quotidienne. Je suis dans ce livre. Regardez, dans les Lamentations de Jérémie, c'est difficile les Lamentations. On voit Dieu qui est profondément attristé de ce qui se passe. Vraiment, Jérémie a beaucoup souffert, mais voilà, il a confiance en Dieu. Et regardez ce qu'il écrit. Ça va mal. Lisez les Lamentations de Jérémie, elles portent bien leur nom, je vous le dis. Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Il y a cette parole extraordinaire pour comprendre la pensée que je partage avec vous ce matin. Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 37. Qui dira? Vous y êtes? Lamentations, chapitre 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Alors la suite est très intéressante. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? C'est une question. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Vous avez compris un petit peu? Si vous devez vous plaindre, plaignez-vous de vos péchés. Mais ne vous plaignez pas des choses. et des choses qui arrivent. On le voit ailleurs dans Ésaïe. Il ne regarde pas vers celui qui a voulu ces choses. Il regarde, les gens, ils regardent les choses. Les gens, ils regardent ce qui se passe. Il y a une crise, voilà. Et les gens, ils chantent bien, nous t'adorons, nous te faisons confiance. Mais c'est dans la tête. C'est pas dans le cœur. Ils aimeraient que ça soit dans le cœur, mais il leur manque cette profonde démarche spirituelle. Dieu, mais Seigneur, si tu l'as dit, tu l'as dit. Et beaucoup de chrétiens disent, mon Dieu, mais ils devraient pas dire mon. C'est pas vrai. Je vous le dis parce que c'est que comme ça qu'on peut changer et passer d'une vie de médiocrité à une vie de conviction. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens dans le monde, les gens, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu par-ci, oh mon Dieu, mon Dieu. Mais le mon, il est de trop. Il est de trop dans tout le cœur des pécheurs, mais il est hélas de trop dans le cœur de certains chrétiens parce que ce n'est pas vrai. Il est peut-être Dieu, mais il n'est pas votre Dieu. S'il est votre Dieu, vous aurez la conviction que rien ne lui est impossible. Vous entendez, mes frères et sœurs, rien ne lui est impossible. Si vous vous plaignez, plaignez-vous de votre péché. Ne vous plaignez pas des péchés des autres. Plaignez-vous de votre péché. C'est écrit. Quand on se plaint du péché des autres, on est toujours mal, on est tout le temps en train, dans un mauvais état d'esprit, de critiquer, de râler. Plaignez-vous de vos péchés. Ça vous permettra de les régler. Je lisais également cette souci hier que je lisais justement dans Ésaïe. Quand Sanchérib, ce roi, méchant comme tout, qui voulait détruire Israël. Vous vous rappelez cette histoire? Il avait détruit les nations païennes et il a envoyé un courrier au roi Ésaïe, etc. Au prophète Ézéchias, il a envoyé un courrier et voilà comment je vais te traiter. Et ne te mets pas en tête de faire confiance à Dieu, ton Dieu ne te défendra pas. C'est arrivé aux oreilles du prophète. Et Dieu s'est occupé de Sanchérib. Dieu lui a donné une grande leçon. Et Dieu lui a fait envoyer un courrier. Et dans la nuit, 185 000 de ses soldats sont tous morts par un ange. Il est rentré chez lui et ce sont ses fils qui l'ont assassiné dans le temple. Enfin, pas dans le temple de Dieu, dans le temple d'idole. À Dieu, rien n'est impossible. Vous entendez, mes frères et sœurs? Dieu règne au siècle des siècles. Mes frères et sœurs, je vous assure, je ressens dans mon cœur que beaucoup de chrétiens sont dans la tiédeur, dans la tristesse, parce qu'ils n'ont pas compris cette vérité. Ils aiment le Seigneur, mais ils ne le connaissent pas comme ce Dieu à qui rien n'est impossible. Mais relisez la Bible et vous verrez que tout le long, Dieu s'occupe de son peuple. Il s'est occupé de son peuple Israël, aujourd'hui il s'occupe de l'Église. Dieu s'occupera de vous. Dieu veut accomplir ses promesses. Vous le savez, Dieu veut accomplir ses solutions. Il les a, ses solutions. Mais voilà. Voilà, est-ce que vous êtes prêts à lui faire vraiment confiance? Est-ce que vous allez partir chez vous tout à l'heure avec cette confiance dans votre cœur? Oui, Seigneur, tout est possible. Est-ce que demain matin, vous allez vous lever en disant, mais c'est vrai, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu peux faire ce que tu veux. Quand on le croit, eh bien, on croit. Est-ce que Dieu est toujours capable de pardonner? Est-ce que Dieu est capable de pardonner? Est-ce que Dieu est capable de guérir? Est-ce que Dieu est capable de convaincre, de libérer? Je discutais jeudi soir à la réunion à Mazamé. J'étais un conseiller d'administration à Mazamé. Et on parlait de l'importance de rendre témoignage. De ne pas avoir peur de témoigner. Et il y a un frère qui est à Mazamé qui s'appelle Didier. Et qui était à côté, dans un immeuble. Il habitait dans un immeuble. Et il y avait un militaire méchant comme tout. Il y en a de bien. Mais un militaire méchant comme tout. Et personne n'osait lui parler. C'est un gars, je le disais hier soir, c'est un gars qui faisait des ratonnades. Vous savez pas ce que c'est? C'est très bien. C'est très bien que vous sachiez pas ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est. Alors, il y en avait quand j'étais à l'armée. C'est des militaires qui prennent des battes de baseball et la nuit sortent et ils s'en vont massacrer tous les Arabes qu'ils croisent. Ça s'appelle, c'est très intelligent, ça s'appelle une ratonnade. Et ce gars, il organisait des ratonnades. Et il y a quelques semaines ou quelques mois, il l'a appelé Didier. Il a dit, allô Didier, bonjour, je vous appelle. Voilà, j'ai donné mon cœur à Jésus. Je me suis converti et j'ai appris l'arabe pour évangéliser les musulmans. Adieu, tout est possible. Tout est possible aujourd'hui. Mes frères et sœurs, si vous ne croyez pas ça, vous ne croirez pas dans vos prières. Et quand vous prierez, le diable réussira à vous faire croire qu'il ne les entend pas. Le diable arrivera à vous décourager et vous n'irez, vous n'aurez pas envie d'aller à la réunion de prière. C'est pour ça que dans les annonces, je voudrais, parce que pour les couples, c'est archi important que vous compreniez ce qu'est la prière d'autorité. Certains n'ont pas compris ce qu'était par exemple la contemplation, l'adoration, la supplication. Il y a plein de formes de prière. Mais il y a une prière, je suis persuadé, que l'ennemi veut que nous restions dans l'ignorance à ce sujet. Et je vous demande de prier pour moi, c'est quelque chose que j'ai sur mon cœur depuis 2 ou 3 jours, parce que lorsque un homme et son épouse prient ensemble, mais ils peuvent faire des expériences extraordinaires, et il y a des couples qui ne prient pas ensemble, et c'est un drame parce qu'on passe à côté d'expériences. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire des expériences quand on prie avec sa femme? Vous n'êtes pas nombreux à être convaincus, c'est dommage. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Parce que l'enseignement n'est pas compliqué. Si 2 s'accordent, un couple, un homme et une femme, c'est déjà 2. Donc c'est déjà l'Église qui est dans votre maison. Et mais c'est important. Moi, c'est ça. Ça m'a préoccupé cette affaire. Quand je suis parti à Melun faire la mission, je suis resté toute la journée à mon hôtel pour me tenir devant Dieu. Le pasteur voulait me faire visiter des trucs sur Paris. Non, je veux rester dans la présence de Dieu. Et je crois que c'était pour ça. Pour que je comprenne vraiment ce qu'est la prière d'autorité. Mardi soir, on partagera ces choses. Je ne vous le dis pas pour que vous veniez, mais je pense qu'il y a des chrétiens, sérieusement, qui veulent quand même voir Dieu agir, qui veulent vérifier ce qu'on est en train de voir ce matin, qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mais il y a des choses qui doivent être faites. La prière d'autorité, par exemple, elle ne peut pas être faite si vous vivez dans le péché, on le verra. C'est clair. Vous pouvez interdire, comme on l'entend des fois, « Seigneur, j'interdis à Satan de faire... » Écoutez, on expliquera ces choses, je pense que c'est nécessaire. Dans le royaume de Dieu, les choses, elles doivent se faire d'une manière sérieuse. Alors, je termine cette première partie, ce verset. Rien n'est impossible à Dieu. Est-il dans votre tête ou est-il dans votre cœur? S'il est dans votre cœur, vous le saurez vite. Vous serez un adorateur, en esprit et en vérité. Vous vous lèverez dans l'adoration. Vous savez que c'est vrai. Si vous vous levez en disant à Dieu, tout est possible, Dieu Seigneur, je t'adore, tu peux tout. Tout ce qui se passe, juste une parenthèse, tout ce qui se passe en ce moment, par exemple en Syrie, laissez-moi vous dire que tout ça, c'est sous le contrôle de Dieu et que ça permettra que certaines prophéties de l'Écriture s'accomplissent pour qu'un dirigeant européen sorte de cette affaire. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir un gouvernement européen qui va se mettre en place d'une manière totale. Vous verrez, vous le verrez. Dieu règne. Il règne toujours. Règne-t-il dans votre vie? Le deuxième point est absolument important, on en parle régulièrement. Le chrétien doit combattre le bon combat. Même si Dieu est tout puissant, ça ne nous autorise pas à ne rien faire. C'est vraiment de l'aveuglement, de la négligence, de la désobéissance et même du péché. Car celui qui sait faire le bien et ne le commet et le fait pas, commet un péché. Mon deuxième point, il faut que l'Église combatte. Et c'est vrai qu'on n'aura pas envie d'aller à la prière si on ne croit pas, bien sûr, on ne croit pas avec le cœur, qu'à Dieu tout est possible. Vous comprenez bien, ça va être presque une corvée, aller à la prière le mardi soir, c'est bizarre, je suis fatigué ce soir. Mais quand même, combien de chrétiens sont faibles? Oh, ça nous préoccupe. Monsieur de Dieu disait, lorsqu'il a introduit la Sainte-Seine, qu'il est préoccupé par la quantité de chrétiens qui n'ont que l'apparence de la piété. Mais moi aussi. Je suis préoccupé quand je vois la quantité de chrétiens qui n'ont plus le fardeau des âmes, quand je vois les chrétiens qui n'ont plus envie de prier, on parlait de prier en couple, etc. Je suis vraiment préoccupé. Oui, beaucoup de chrétiens ne devraient plus appeler Dieu mon Dieu. Alors, il faut lutter. Est-ce que vous avez conscience qu'il faut lutter? On l'a lu dans les 2 textes de l'Apocalypse. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Et on aura des tribulations. Il a dit Jésus, vous aurez des tribulations. Est-ce qu'il a dit Jésus? On a des combats, qui n'en a pas? Il y a peut-être des chrétiens qui se disent, ah, mais peut-être, tiens, les anciens, ils n'ont pas de combat. Eux, ils marchent avec Dieu depuis 50 ans. Eux, c'est gagné, ils n'ont plus de lutte. Peut-être que les pasteurs, peut-être ils sont tellement habitués à servir Dieu. Ils n'ont pas de lutte, les pasteurs. Ils n'ont pas de combat. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de combat peut se lever et rendre son témoignage? S'il vous plaît, votre cas m'intéresse. C'est que si vous n'avez pas de combat, c'est que vous êtes déjà mort. Physiquement, je parle. On a tous des combats. ne vous mettez pas en tête qu'il y a une espèce d'élite qui échappe à cette situation. On a tous des combats, on a tous des luttes, on a tous des moments difficiles. Jésus nous a prévenus, vous aurez des tribulations. Quand il a dit à Pierre et aux apôtres, le Satan vous a réclamé pour vous cribler. C'est aussi pour l'Église, ne vous inquiétez pas. Mais nous avons un Dieu qui est tout puissant pour nous donner la victoire. Et c'est ce que le diable veut. Il veut nous empêcher de persévérer. Il veut nous empêcher de croire en nos prières. Il veut nous empêcher d'aller à la réunion de prière. Il veut nous voler notre assurance. On sait bien de s'accrocher à ce cantique. J'ai l'assurance de mon salut. Ah, ce qu'a dit Brice Delorme. C'était formidable ce témoignage de ce pépé là qui a pleuré dans ses bras. C'est extraordinaire. Moi, j'ai l'assurance. Mais est-ce que vraiment vous avez cette assurance que Dieu entend vos prières, qu'il va vous exaucer? Est-ce que vous faites partie de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin ou est-ce que vous faites partie de ceux qui vont abandonner la foi? Parce que c'est écrit que beaucoup abandonneront la foi, la saine doctrine, etc. Paul y combattait. On va lire un texte. J'ai cru que Monsieur de Dieu allait me le voler ce matin. Colossiens chapitre 2. Je l'aurais quand même pardonné, bien entendu. Colossiens chapitre 2, verset 1er. Regardez ce verset. Paul combat, il combat pour lui et il combat pour les autres. Voilà ce qu'est un véritable chrétien. Il y a des chrétiens qui ne combattent que pour eux. C'est du chacun pour soi. Et ce n'est pas l'évangile, ça. Colossiens chapitre 2, verset 1er. Je veux, il voulait, ce n'est pas de l'orgueil, mais il explique, c'est pour nous. Je veux en effet que vous sachiez, est-ce que c'était de l'orgueil, d'après vous? Mais ce que non, si c'était de l'orgueil, Dieu ne l'aurait pas utilisé. Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour tous ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Vous voyez comme quoi ils priaient, comme quand on prie pour les chrétiens qui sont persécutés au Soudan, les chrétiens qui sont persécutés en Érythrée, ou dans la province d'Orissa, en Inde, etc. On peut dire, je prie pour tous ceux qui n'ont pas vu notre visage. Voilà. Paul, il combat pour lui, et il combat pour les autres. Un chrétien qui croit qu'à Dieu, rien n'est impossible, il pourra le faire. Sinon, il va être fatigué, il va juste prier pour lui. Mais j'en ai assez avec mes problèmes. Mais monsieur Gou, vous plaisantez. J'en ai assez à traîner ma bosse tout seul. Et voulez-vous que je m'intéresse aux autres? À Dieu, rien n'est impossible. Et si vous combattez pour les autres, ça plaira à Dieu. Et vous le savez, si vous faites partie de cette catégorie de chrétiens qui priez pour les autres et presque que pour les autres, vous savez que Dieu s'occupe de vos problèmes. Vous l'avez certainement vérifié. Oui, Satan, les puissances de l'enfer, les esprits méchants, les dominations, les principautés mauvaises, etc. Tout sera fait de la part du diable, de la part de l'enfer, pour nous empêcher de combattre. Ce que le diable fait, c'est ça, empêcher les chrétiens de combattre. S'il y a un mot d'ordre en enfer, je ne sais pas comment ça se passe dans les hiérarchies sataniques, mais une chose est sûre, il y a un mot d'ordre, empêcher les chrétiens de prier. Empêcher les chrétiens d'aller à l'église prier, empêcher les couples chrétiens de prier, et s'ils prient, empêcher-les de croire à leur prière, et s'ils commencent à prier, empêcher-les de persévérer. C'est ça le mot d'ordre qui circule dans le royaume des ténèbres, c'est ça, je vous le dis, c'est comme ça que ça doit marcher. Tout est fait pour que nous prions pas, pour que nous prions en vivant dans le péché, comme ça on n'a aucune assurance, etc., etc. Parce que si la puissance des ténèbres est vraiment puissance, je suis heureux de vous dire que la puissance de Dieu est beaucoup plus grande. Et que nous sommes armés, que nous avons tout reçu. C'est pas Paul qui le dit? Il est dit, on le lit, je vois qu'on a le temps. 2 Corinthiens chapitre 10. Parce que oui, le diable est puissant, il est puissant. Oui, c'est vrai. Mais vous n'allez pas comparer, j'espère, la puissance de Dieu, du diable, avec la toute-puissance du Seigneur quand même. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Je pense aussi qu'il y a une femme ce matin qui avait reçu un don spirituel qu'il n'a pas donné. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas la première fois que ça vous arrive. C'est parce que la prophétie était sévère que vous ne l'avez pas donné, je sais. Ma sœur, je t'encourage, donne la prophétie, même si c'est sévère. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Vous le croyez ça? Elles sont puissantes pour renverser, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Mes frères et sœurs, il y a un combat, il y a des tribulations, il y a des difficultés, on est criblé de temps en temps, mais nous avons toutes les armes. Toutes les armes qu'il faut. Dieu nous les a données. Si vous lisez, je pense à ce verset 8 du psaume 24, l'Éternel fort et puissant, puissant dans les combats. Dans Daniel au chapitre 7 au verset 14, ne le cherchez pas, il est dit que sa domination, en parlant de la domination du Seigneur, elle est éternelle. Jean 17 verset 3, tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Avant de remonter au ciel, Matthieu 28, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais vous le croyez ça mes frères et sœurs? Vous le croyez? C'est la vérité. Et il nous a donné toutes les armes. Romains 14, 9. Christ est mort. Et il domine sur les morts et sur les vivants. Il domine sur les morts. Les morts, bien sûr qu'il domine sur toutes choses. Mais les gens qui sont morts autour de nous, est-ce que Dieu domine sur eux? Est-ce que Dieu peut dire à un rétrograde demain, va à l'église? Est-ce que Dieu peut donner un rêve à un rétrograde cette nuit? Seigneur, convainc les rétrogrades. Nous, on ne peut même plus leur parler. Mais donne-leur un rêve, Seigneur. Est-ce que Dieu peut donner un rêve à un rétrograde, lui montrant qu'il faut qu'il revienne dans une église? À Dieu, tout est possible. Mais si on ne prie pas avec assurance, eh bien le diable il va se marrer, il va se frotter les mains. 1 Corinthiens 15, Dieu a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus. 1 Pierre 3, 22, il est à la droite de Dieu, et depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Et à cause de la puissance de Dieu, c'est pour ça que j'ai commencé avec ce premier point, à cause de la puissance de Dieu, les chrétiens devraient combattre aujourd'hui et demain et jusqu'à la fin. Voilà les chrétiens. Et vous voyez, oh, j'ai pas envie de prier. Mais oui, mais moi je comprends, on n'a pas jugé. Si on n'est plus là, c'est trop grave pour commencer un débat là-dessus. Mais mes frères et sœurs, lorsque les chrétiens recommenceront à croire avec le plus profond de leur cœur qu'à Dieu rien n'est impossible, je le dis, ils deviendront des adorateurs et des bons soldats pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul qui prie pour les Éphésiens, mais je veux que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Alors qui va se réveiller? Qui dans cette ville de Toulouse va se réveiller pour justement gagner des âmes? Pour dire, Seigneur, mais je veux retrouver cette ferveur. Je veux véritablement croire qu'à toi, rien n'est impossible. Dans votre famille, ils sont tous inconvertis? Et alors, est-ce que Dieu peut les toucher? Mais croyez-le, et venez prier. Et aimez, je sais que ce n'est pas facile de se garer. Si vous arrivez en retard, tant pis. Mais venez prier avec les frères, avec les sœurs. Et je vous en prie, Marie, épouse, priez ensemble. Et demandez à Dieu si c'est la volonté que vous veniez mardi soir écouter cette prière pour comprendre ce qu'est la prière d'autorité. J'ai jamais prêché dessus. Je crois que c'était temps. Peut-être que certains n'étaient pas prêts. Peut-être que moi, je n'étais pas prêt, premièrement. Mais je vais vous dire une chose. Ça peut changer la vie de l'Église. Je répète, pour ceux qui obéissent. Si vous obéissez pas, mettez votre vie en règle d'abord avec Dieu. Parce que croyez-moi, la prière d'autorité, c'est pour les gens qui obéissent au Seigneur. Alors, l'iniquité se répand. Je vous apprends quelque chose, que l'iniquité se répand. Quand Monsieur de Dieu ce matin parlait là, de ces affiches que l'on voit, je pense moi à Natacha souvent. Elle est où Natacha? Elle est devant. Souvent je pense à vous Natacha. Vous savez, notre chat, c'est notre jeune sœur qui est aveugle. Et je dis des fois elle a de la chance. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez compris quand même de ne pas voir certaines choses. Mes frères et sœurs, l'iniquité se répand. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'Église de la fin des temps va être de plus en plus tiède, apostate. Et ceux qui seront les vainqueurs, ce sont ceux qui croiront qu'à Dieu rien n'est impossible. Ceux qui persévéreront et qui diront, voilà, je vais prier, j'irai à la réunion de prière. Je ne dis pas ça pour qu'il y ait du monde à la réunion de prière, mais je pense que c'est un rendez-vous avec le Seigneur. Je serai délivré de mon esprit de timidité. On verra ça jeudi soir avec les frères qui veulent devenir des anciens, car il faut passer par cela, d'être délivré de cet esprit de timidité, de crainte, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mes frères et sœurs, nous devons passer ce cap, et c'est clair, mais il est clair que si vous commencez vos journées avec ce verset qui va descendre de la tête au cœur, il y a à peu près 40 centimètres. Mais je peux vous dire que c'est la distance la plus grande à franchir. Une fois à Tahiti, j'avais dit quand je prêchais, vous pensez-vous que la distance la plus grande, c'est Papeete Paris? Eh bien moi, je peux vous dire que la distance la plus grande, c'est du cerveau au cœur. 40 centimètres, c'est un docteur qui le confirme. Alors, est-ce que vous croyez à l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Est-ce que vous voulez voir tous ces petits-enfants qui chantaient tout à l'heure, les voir s'engager dans les eaux du baptême? Il y a neuf jeunes qui vont prendre le baptême. Je vous assure, il y a 3 ou 4 conversions. J'espère qu'ils vont vous dire ce qu'ils m'ont dit. Parce que des fois, quand on est là, on panique un petit peu. Vous n'avez pas remarqué? Non? Vous l'essayez? C'est vrai, quand on est sur l'estrade, des fois, on perd un petit peu les moyens. Mes frères et sœurs, à Dieu, rien n'est impossible. Apocalypse 4:12, on l'a lu, c'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Alors vous la garderez cette promesse? À Dieu, rien n'est impossible. Retenez que ça de la prédication, mais je vous en supplie que ça, que vous le reteniez dans votre cœur. Terminez ce soir la journée avec cette assurance. Rien n'est impossible à Dieu. Vous entendez? Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Vous voulez faire des expériences avec le Seigneur? Pas des expériences pour faire des expériences qui correspondent à la volonté de Dieu. Oui, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Personne ne sera épargné. Toute la terre va être éprouvée. Ce qu'on voit, c'est le début. Vous le savez. C'est rien ce qu'on voit. C'est rien ce qu'on verra jusqu'à l'enlèvement. Et si vous avez la tristesse de rester après l'enlèvement de l'Église, et vous vous rappellerez de ces choses, et vous direz, c'était vrai. C'était vrai quand il nous disait que c'était que le commencement des douleurs. Alors on va terminer en demandant à Dieu de nous garder. On pourrait peut-être chanter ce cantique, je ne sais pas s'il est sur... Debout, Sainte Cohorte, soldat des rois, je crois qu'on a du mal à le trouver parfois. C'est le 359 ou le 360, sur les ailes de la foi. C'est un vieux cantique. On ne le chante pas, je crois, parce qu'il n'y est pas. Regardez s'il y est.